Vous écoutez France Culture.
Une heure moins le quart, la grande table d'été, Martin Kenéen avec un petit intermède.
Absolument, merci Antoine. En effet, avant de nous plonger dans la rentrée littéraire, je vous propose de découvrir la rentrée de France Culture, délivrée ce matin Urbi et Orbi au cours d'une conférence de presse aux aires d'Odyssée de l'espace, avec dans le rôle de Hal 9000, le très humain Frédéric Barrère, directeur de la rédaction de France Culture.
France Culture. Entrez.
Voilà. Bonjour à tous, vous l'avez compris.
C'est une information importante, on vient de découvrir une nouvelle galaxie, la galaxie France Culture. Alors, édition spéciale pour vivre en direct l'événement, le Big Bang de cette rentrée radio, plus spectaculaire que la guerre des étoiles, plus puissant et impressionnant que les gardiens de la galaxie. La galaxie France Culture, dirigée par notre super-héros, un mélange de Drax, le Destructeur, et d'un maître Jedi. Bonjour Olivier Poivre d'Arvor.
Bonjour.
Alors vous êtes à la tête d'un territoire en expansion.
Allez, je vous le confirme, mon cher Frédéric et ami terrien ici présent, l'exploration spatiale n'est pas morte. Et c'est Radio France qui va donner un nouvel élan à la conquête de l'univers en s'apprêtant à mettre en orbite ce lundi 1er septembre 2014 la galaxie France Culture. Alors, je vous rappelle déjà les très bons chiffres, Frédéric, en forte croissance des France Cultériens. Une population de près d'un million d'habitants jour sur l'antenne. Notre véritable centre de gravité, l'antenne, riche de sa biodiversité unique au monde, et des France Cultériens désormais accompagnés sur la toile céleste des réseaux sociaux par 640 000 fans et 130 000 followers. Et 51 ans après sa formation dans l'espace public, soit 6 ans avant la mission Apollo 11, hein, la galaxie France Culture émet aujourd'hui un rayonnement assez exceptionnel, près de 7 millions de téléchargements par mois et autant d'objets satellisés, la fiction, le documentaire, l'info, les éditions, et s'est récemment enrichi de plusieurs planètes déjà très peuplées, hein, France Culture Plus, 175 000 fans, tous des France Cultériens juniors, France Culture Papier, qui émet 4 fois l'an à destination de 100 000 bouffeurs de papier, France Culture Forum, une nouvelle génération de sondes du savoir, des météorites enfin, les prix France Culture. Mais, grâce à Mathieu Gallet et à Frédéric Schlesinger, nos nouveaux Jean-Loup Chrétien et Patrick Baudry de l'Odusiel Galactique, la conquête de l'espace prend un nouvel élan décisif en 2015 avec le lancement d'une nouvelle navette franceculture.fr prévue pour accueillir 4 millions de visiteurs par mois sur son territoire et la mise en orbite de la fusée France Culture Monde, un satellite géostationnaire destiné à couvrir l'ensemble de l'univers francophone, une étendue à très forte densité, ni exoplanète, ni nébuleuse, mais bien reliée au système solaire Radio France. Voilà, après 3 années de mission spatiale dans ce territoire en expansion qu'est la galaxie France Culture, seul astronaute survivant du précédent programme de tir, je peux vous assurer de la qualité des membres de notre équipage. Ils n'ont pas la tête dans la lune, mais pas pour autant la tête au carré. Des papous dans la tête peut-être, et ils ont même pour certains les pieds sur terre 24 heures sur 24. Et comme le rappelle notre physicien Étienne Klein, France Culture n'est autre que l'anagramme de « lancer ce futur ».
Olivier Poivre d'Arvor, alors au cœur de notre galaxie, la planète violette France Culture. Et c'est notre étoile la plus brillante, notre princesse Léa en quelque sorte, mais sans les couettes un peu étranges. Sandrine Trainer est directrice éditoriale. Bonjour Sandrine.
Bonjour Frédéric. Dans notre système solaire, pas d'étoiles filantes, des astres durables à l'image de Marc Voinchet à la tête de Matin redessiné. Une carte du ciel où chacun retrouvera ses repères, même si vous découvrirez quelques nouvelles météorites que nous comptons bien mettre en orbite pour quelques années-lumière. C'est de celle-là que je vais vous dire un mot. Évidemment, Frédéric, l'espace du livre et de la littérature est notre voie lactée sur France Culture, le cratère d'où jaillissent toutes les idées, où se nourrissent tous les imaginaires, l'instrument du combat, et je suis sérieuse, de la civilisation contre la barbarie. Elle accueille quelques nouvelles supernovas. Écoutez.
Eh bien, moi, j'ai découvert une planète passionnante, et en plus, elle est habitée. Mais attention, d'une forme de vie très, très particulière, parfois lunaire, mais souvent très solaire. C'est une petite colonie enthousiasmante composée d'êtres passionnants à observer parce qu'ils passent leur temps à se raconter des histoires. Ce peuple s'est donné le nom d'écrivain et du coup je me suis dit que j'aimerais bien vous le présenter, ce peuple, et que ça pourrait s'appeler le temps des écrivains parce qu'ils m'ont dit que le temps, c'est la matière première de cette planète. Du temps perdu, du temps retrouvé, du temps qu'ils recherchent en tout cas, et qu'ils essaient, et ça j'adore, d'arrêter et même de vaincre. Oui, vaincre le temps, je trouve que c'est un beau programme, non ?
Vous retrouverez également Christophe Onodibio, puisque c'était lui chaque jour avec le temps des libraires, le goût du texte, des textes encore, dans des rendez-vous d'été qui se sont pérennisés pour l'année, la boîte à lettres de Cécile Gilbert le samedi et les bonnes feuilles chaque jour de la semaine. Et puis last but not least, une belle étoile, une très belle étoile, Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie Française.
Du lundi au vendredi à 19h55, je lirai « Guerre et paix » de Léon Tolstoï, dans la très belle traduction de Boris de Schleuser. Ce sera une lecture intégrale, le roman fut publié en feuilleton, c'est donc peut-être lui redonner sa forme naturelle que de le lire ainsi par chapitre, mais je tiens cette intégralité parce que c'est de ces romans qui, par leur longueur précisément, leur vitalité, leur démesure, et toutes ces choses-là sont liées, nous donnent réellement comme... peu de livres en donnent la sensation du temps, de l'histoire, du temps dans l'histoire, de la chute d'un monde et de l'apparition d'un nouveau monde.
Le temps encore à la vitesse du son, un nouveau monde sort d'un trou noir trop peu exploré jusqu'ici sur France Culture. Culture Société, la nouvelle tranche horaire de l'après-midi de 15h à 16h. Parmi les nouveautés, mode de vie, mode d'emploi par Mathieu Garrigou-Lagrange, rue des écoles sur une heure par Louise Touret, esprit de justice par Antoine Garapon. Et de 16h à 17h, dans les nouvelles vagues, Marie Richeux dressera désormais la revue du monde qui vient. Et puis même système solaire, mais autre position géostationnaire, la science. Vous vous souvenez des chroniques matinales de notre amoureux des sommets, Étienne Klein. Vous ne compreniez pas toujours tout. Maintenant, il va tout vous expliquer.
La science nous transporte, tels des touristes déroutés et hagards, en des mondes étranges où nos intuitions perdent leur marque. Et chaque samedi, avec la complicité d'un invité, je nous la rendrai plus familière en l'évoquant tranquillement, comme autour d'un verre. L'émission s'intitulera « La conversation scientifique ». Petit hasard orthographique, ce titre est l'anagramme de « Ce qu'on sait à côté vers l'infini ». J'entends cela comme l'énoncé d'une ambition. Par petites touches de science, nous décalerons nos esprits pour qu'ils voient autrement et plus loin, au moins jusqu'aux étoiles, jusqu'au cosmos et même dans l'invisible.
Frédéric, il ne vous aura pas échappé ces derniers jours que sur la Terre comme au ciel, tout est affaire de rapports de force, de discours dialectiques, d'ambitions personnelles et collectives. Pour comprendre ce qui se passe au sommet des États, à la tête des partis, des syndicats, des églises, des entreprises, une nouvelle émission, l'Atelier du pouvoir, par Vincent Martini et Thomas Vider chaque samedi. Et puis, je ne vais pas oublier, Frédéric, c'est vous qui reprenez le cosmique secret des sources,
oui.
Une histoire de pouvoir encore, et aussi de contre-pouvoir.
Le pouvoir, merci Sandrine Trainer. La planète France Culture, c'est également une rédaction, une équipe galactique. Et comme le gouvernement français, la rédaction a vécu un remaniement. Frédéric Metezeau, notre astronaute politique, décrypte les arrivées et les départs.
Oui, mais contrairement au gouvernement, la rédaction de France Culture enchaîne les bonnes nouvelles et les astres lui sont favorables. Ses journalistes ont rayonné pendant les municipales et les européennes, au Mali, en Irak, à Gaza et en Israël. Et cette année encore, ils vous proposent de nouveaux rendez-vous pour éclairer la nébuleuse de l'actualité. La constellation s'agrandit avec à 7h30 un journal et le dimanche à 12h30 la face cachée du globe, l'actualité internationale qui nous aurait échappé durant la semaine. Sans oublier... Trait pour trait à 7h13, le choix de la rédaction dans le journal de 7h30 et le magazine de la rédaction le vendredi de 18h15 à 19h. L'actualité n'en a pas fini de briller sur France Culture.
Adèle Van Rett.
Bonjour, notre autre joyau galactique. Alors vous pilotez le vaisseau spatial des nouveaux chemins de la connaissance. L'émission la plus téléchargée de Radio France, ça a l'air d'aller Adèle hein.
Bah ça va, moi je plane dans cette galaxie-là.
Bon, mais est-ce qu'une vie, ça suffit pour faire tout ça ?
Non, une vie non. Mais alors justement, dans cette galaxie, nous avons trois vies. Ou plutôt, une vie avec trois supports différents. On a un terme en philo pour désigner ça, c'est, vous le savez, le terme Frédéric ?
La métempsychose. Psychose.
La métempsychose, rien à voir avec Hitchcock. La métempsychose, c'est la migration des âmes après la mort vers un corps différent ou un support différent. Et en l'occurrence, il y en a trois des supports à France Culture. Il y a le support physique, le corps, la voix, le moment du direct, le moment où on se doit de regarder l'invité dans les yeux et de poser des bonnes questions. Et une fois que cette vie-là s'éteint, chaque jour, pour mieux renaître le lendemain, c'est la vie de fichier qui prend le pas, un fichier écoutable, réécoutable et podcastable. C'est la vie des tables, en réalité. Le moment où notre voix vient accompagner le corps des auditeurs, qui va choisir le moment de nous écouter en courant, en cuisinant, en conduisant, en s'endormant. Ça, c'est notre côté Big Brother. Et puis, pour être encore plus à la pointe de l'actualité, de l'innovation technologique, nous avons aussi une vie de papier. Ça, c'est notre côté 20e siècle, le papier, donc avec France Culture Papier, où les émissions sont retranscrites pour être lues par la suite. Et aussi, comme c'est le cas avec les Nouveaux Chemins, on a lancé une collection d'entretiens inédits de philosophes qui donne lieu, au moment de la publication, à une série d'émissions sur le thème. Voilà, donc autant de vies pour essayer de tourner le plus rond possible au sein de cette galaxie.
Trois vies pour écouter France Culture, un rêve cosmique. Nous arrivons à la fin de cette édition spéciale réalisée avec l'aide de la rédaction, des programmes, des équipes techniques et de réalisation. Alors je vous donne une petite explication sur notre fusée qui est pratique pour voyager dans la galaxie, mais c'est parce qu'il y a deux nuits spéciales Tintin en septembre, le 7 et le 14. Merci à tous nos invités. Rendez-vous lundi prochain pour une rentrée galactique sur Culture. On termine en saluant la nouvelle émission de Mathieu Conquet, le samedi de 19h à 20h, Culture Musique.
Alors à présent, après les promesses de cette nouvelle grille de France Culture, place à celle de la rentrée littéraire dans la grande table d'été. Aujourd'hui, la grande table d'été est couverte de livres, 607 exactement, amoncelés en ziggourat entre les micros et nos invités, venus débattre des lignes de force et de faille qui structurent ou lézardent cet étrange édifice qui fleure bon la colle et le papier et que l'on nomme rentrée littéraire. 607 romans livrés donc en première partie de notre émission à la sagacité de deux critiques et d'une éditrice. Après quoi, nous extrairons avec précaution deux premiers romans de ce jeu de Caplat géant en compagnie de leur auteur qui se lance aujourd'hui crânement à l'assaut des lecteurs, Gauthier Battistella, auteur d'Un jeune homme prometteur chez Grasset, et Éric Demarty qui publie En face chez Flammarion. Mais pour l'heure, avant les gladiateurs, place aux lions, que dis-je, aux impératrices et aux empereurs de l'arène littéraire, tantôt magnanimes, tantôt sanguinaires, les critiques et les éditeurs. Mais gageons qu'il y aura dans cette première partie de la grande table d'été moins de sang versé que de lumière répandue sur cette rentrée littéraire, tant mes trois invités sont avides, non de mise à mort, mais d'amour. J'ai en effet l'honneur de recevoir Sabine Audrery, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et responsable du cahier livre du quotidien La Croix. À vos côtés, une invitée qui porte un nom obscur, comme le disait votre grand-père Jean Paulhan, Claire Paulhan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éditrice et spécialiste de littératures autobiographiques. Enfin, troisième invité autour de cette grande table d'été, Christophe Onodibio, bonjour.
Bonjour.
Journaliste et écrivain, votre nom retentit désormais jusque dans l'espace, hein, via les ondes de France Culture.
Les écrivains, les romanciers sont parfois lunaires, parfois aussi solaires. Hein, on les préfère solaires parfois. Enfin, je ne sais pas, on demandera à Sabine et à Claire, mais oui, maintenant nous sommes dans l'espace. Oui.
Et avec vous, on est dans les pages du Point, dont vous êtes le directeur adjoint de la rédaction, aussi responsable de ces pages culture. Et puis, autour la grande table d'été et dans les studios de France Culture, puisque vous êtes désormais producteur de deux rendez-vous, le temps des écrivains et le temps des libraires.
Yeah.
Face à la rentrée littéraire, à sa profusion, on peut au choix adopter l'attitude d'un consommateur lancé dans un rodéo dans les rayons d'un supermarché, à la recherche de la nouveauté, de la fraîcheur, du clinquant, en un mot, du divertissement, ou alors vivre cette rentrée littéraire comme si c'était la dernière, se tourner vers les Caloi Kagatoi, honnêtes hommes et femmes, et leurs ouvrages qui s'offrent à nous à la fois comme les plus agressifs et peut-être les plus enchanteurs. Christophe Onodibio, alors quelle attitude avez-vous choisi d'adopter ?
Votre question est compliquée parce que c'est vrai, vous avez parlé de ziggourat, donc j'aime beaucoup le terme. Les ziggourats servaient à observer les étoiles, hein, que vous voyez, on ne quitte pas le domaine de l'espace. Mais c'est vrai qu'on est submergé par ces livres qui arrivent. Heureusement, ce sont des livres qui nous submergent. Donc il y a toujours, quand on aime ça, et je pense que c'est notre cas ici à tous autour de cette table, il y a une curiosité qui est là. Il y a aussi parfois, oui, un affolement parce qu'on a envie de tout lire. Moi, je dirais que l'attitude, elle doit être passionnelle et raisonnée. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui sont attendus, par le public, par les lecteurs. C'est notre rôle, quand on s'occupe des pages du Point, de ne pas faire l'impasse sur ces livres attendus, de les examiner avec le maximum de sérieux, d'empathie aussi. On parlait tout à l'heure en coulisses du livre d'Emmanuel Carrère. Après, il y a aussi la part de découverte. Donc nous, cette année, par exemple, pour notre premier numéro, on a ouvert sur James Salter, évidemment, monument qu'on adore, qui nous a accompagnés depuis un sport et un passe-temps, pour une grande interview. Et puis ensuite, moi, j'ai choisi d'ouvrir sur des premiers romans, justement sur les premiers pas des nouveau-nés en littérature, notamment le livre que vous citiez de Pierre de Marty, en face, chez Flammarion, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc je dirais passion et raison, voilà. C'est très Kalos Kagatos, hein,
oui, absolument, c'est honnête tout vous, homme. Christophe voilà. Et bien alors vous, Sabine Audrory, qu'avez-vous choisi ?
Moi, pour la question que vous posiez auparavant de comment est-ce qu'on aborde en tant que critique et en tant que, entre guillemets, sélectionneur, quelque part, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir une attitude différente en rentrée littéraire ou en pré-rentrée littéraire à partir du printemps où on commence à savoir ce qu'il va y avoir, que dans le reste de l'année, finalement. Notre travail, c'est être, bien sûr, il faut offrir à nos lecteurs, on y est très attentif à la croix, une sorte de pédagogie et de guide.
Des sentiers de randonnée balisés.
Voilà, je pense que c'est notre rôle. Ça veut dire qu'il faut aussi leur dire ce qu'on pense, leur offrir une proposition de lecture sur des livres attendus. C'est le cas du livre d'Emmanuel Carrère, par exemple, dont on pourra reparler, ou de livres dont on débat beaucoup chez nos confrères. Mais pour moi, avant tout, le travail, c'est être attentif à la nouveauté, pour la nouveauté, l'ambition d'une langue, quoi, la force d'une langue et d'un texte.
Mais alors, un peu affolé, comme le disait Christophe Onodibio, vous osez des faces escarpées, vous attaquer à des romans qui promettent d'être ardus et savoureux au terme de l'escalade.
Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire ardu, parce que Claire Paulhan, qui aime les textes exigeants, comme on pourrait dire ardu, exigeant, peut-être me rejoindra sur le fait que le plaisir vient aussi, non pas de la difficulté d'un texte, mais parce qu'il y a des textes réputés exigeants qui, selon moi, sont assez faciles à lire. Simplement, l'ambition, ça peut être un texte très, très fluide. C'est la magie de la langue. Moi, par exemple, j'en ai retenu un en cette rentrée, on pourra y revenir. C'est le premier roman de Philippe Bordas, Chant furieux, chez Gallimard, qui est quelqu'un qu'on connaissait pour deux textes non fictionnels et qui se révèle d'une ambition incroyable avec... une inventivité de la langue qui fait partie du projet même littéraire qui est autour de la figure de Zidane. On pourra en reparler si on parle des biopics. Oui.
Et qui est aussi un photographe et qui avait publié un très très beau livre sur la lutte sénégalaise. Donc c'est toujours effectivement... Là, ça fait partie des curiosités. Tiens, qu'est-ce qu'il a pu nous faire ? Il avait été repéré à l'époque pour ce très beau reportage qui était devenu un beau livre. Voilà, et ça c'est effectivement... Non, quand vous dites affolé, c'était une façon de... présenter les choses.
Mais vous avez le droit d'avoir des émotions, même le critique, voilà,
l'émotion,
ça n'est pas réservé
se disant
aux auteurs.
Que je ne rate pas le...
Ça prime,
voilà,
même, je dirais.
Le tout nouveau.
C'est une boussole essentielle.
Claire Paulhan, quelles sont les émotions qui vous assaillent, entre passion et raison, certainement, comme Christophe Onodibio, à l'heure de la rentrée littéraire, à quoi ça ressemble, vu depuis les éditions qui portent votre nom ?
Enfin, vu depuis les éditions et depuis le regard du public, c'est à la fois une période merveilleuse parce qu'il y a tous ces livres qui sortent et effectivement une grosse animation autour du livre, de la lecture, des librairies, etc. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais c'est aussi un chaos immense parce que 600 romans à la rentrée...
Des essais, documents...
Oui, sans parler des essais, vraiment 600 romans littéraires, ça veut dire que la presse va se déchirer pour avoir la primeur de parler d'un tel ou un tel, qui vont absolument phagocyter toute l'attention, et que sur les 600 auteurs qui croient avoir la chance d'être publiés à la rentrée littéraire, il y en a bien 500 qui vont rester sur le carreau. Et ça, c'est une sorte de drame terrible pour les libraires. C'est aussi terrifiant parce que gérer 600 livres qui arrivent en septembre-octobre ou même en août, c'est vraiment aussi un gros, gros problème de place, de temps de lecture. Et ça fait beaucoup de livres sacrifiés pour pouvoir dire dans les colonnes de la presse que c'est un moment magique de la littérature contemporaine.
C'est la raison pour laquelle vous avez fait paraître, vous avez dealé dès le début de l'été votre mescaline 55 et que vous attendrez la fin septembre pour entraîner les lecteurs sur...
Non, moi j'ai un rythme différent, je ne me préoccupe pas tant de la rentrée littéraire ni même de la rentrée secondaire maintenant qui est phagocytée en janvier et février. On essaye de se caser là où on peut, mais non, ce n'est pas mon problème. Moi je sors quand je suis prête, quoi. C'est le charme des petits éditeurs.
Alors il y a quand même un plaisir, une chance, dit-on, une vitrine pour les livres partout en France, mais aussi à travers le monde, avec cette invention française qu'est la rentrée littéraire, Christophe Onodibio. Est-ce qu'on peut dire de la rentrée littéraire ce que Jean Paulhan disait de l'Académie française ? On est serrés les uns contre les autres, comme dans une catastrophe, bien forcés de s'estimer.
C'est une très très belle formule. Oui, on se tient chaud aussi. C'est vrai que la rentrée littéraire, vous l'avez rappelé, c'est une spécificité française. Il y a des débats, même chez les éditeurs, au fond, encore cette rentrée littéraire. Mais c'est vrai que c'est un moment d'excitation, comme les moments d'excitation, comme le Festival de Cannes, par exemple, parce qu'on parle des livres ici. Mais si on regarde les sorties cinéma, chaque semaine, vous avez une quinzaine de films qui sortent en salle. On va parler de quoi dans la presse ? D'un ou deux, peut-être de trois. Mais ensuite, il y a un deuxième temps. Il y a le gros coup de projecteur sur certaines stars, vedettes, étoiles de la rentrée littéraire. Mais il y a ensuite, souvent, les rentrées sont en deux temps. Il y a des livres dont on parle très très fort pendant les deux premières semaines. Et puis finalement, un deuxième temps et d'autres qui émergent. Donc c'est plutôt une course de fond. Et puis cette rentrée littéraire, elle court presque jusqu'à janvier, jusqu'à la rentrée de janvier qui va chasser septembre. Donc je ne pense pas vraiment, et ça j'espère le croire en tout cas, qu'un chef-d'œuvre restera inconnu même en cette période de rentrée littéraire. Et je trouve ça bien qu'en France, on ait ce moment où toute la presse, même sur les chaînes d'infos, on va parler de livres. Après, de littérature, j'en sais rien. Mais en tout cas, le livre reprend une place centrale dans la vie du pays avec les remaniements ministériels.
Sabine Audrory, je citais à l'instant Jean Paulhan à dessein. Jean Paulhan disant qu'on était bien forcé de s'estimer entre confrères à l'Académie française et pas vraiment à l'Assemblée nationale, en effet, Christophe Onodibio. Est-ce que ça veut dire que la critique négative, pas très chrétienne, avouons-le, aujourd'hui, la critique assassine est interdite ? Ou est-ce qu'elle est tolérée ? Jusque dans vos pages, dans votre cahier livre.
Je peux juste effectivement parler pour La Croix. À La Croix, c'est vraiment un journal où on est très très libre d'écrire de tous les journaux que j'ai pu connaître. Je parle de mon expérience personnelle, c'est un petit peu peut-être déplacé, mais c'est le journal, je crois, où on est le plus libre aujourd'hui d'écrire ce qu'on veut. Simplement, et c'est mon point de vue comme journaliste, on aimerait avoir 20 pages par semaine pour parler des livres. À La Croix, on en a 6. Bon, on a effectivement un an plus de place avec Internet. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses dans les pages culture et dans les pages du week-end. Mais moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup de tirer à boulet rouge sur un livre que je n'ai pas aimé. Et d'ailleurs, je fais la même chose quand j'ouvre un livre que je n'aime pas. Je ne vais pas le lire jusqu'à la page 600. Je vais en lire 50 ou 100 pages. Et si vraiment il ne me plaît pas, on n'est pas obligé de s'infliger ça, disons. Mais c'était peut-être plus courant à une époque, à l'époque de Renaud Matignon et d'Angelo Rinaldi. Peut-être que ça se fait moins aujourd'hui. Je ne sais pas.
La passion, selon Saint-Luc et selon Carl Emmanuel Bach, résonne sur les ondes de France Culture en écho à ce royaume dont nous disions un mot d'Emmanuel Carrère qui joue à croiser le chemin de Saint-Luc. Il y a une tendance lourde, comme on le dit, des métaux et des armes de guerre. Dans cette rentrée littéraire, ce sont les biopics, qui entre nous est un mot impropre pour désigner un livre, puisqu'il désigne un film, biopic. Il y a Trotsky vu par Patrick Deville, Bernanos selon Lydie Salver, Salinger, Presley, Zidane par Philippe Bordas, vous l'évoquiez, Buffalo Bill chez Éric Vuillard, Vendongen chez François Bott, Aristote, Descartes, Aliénor d'Aquitaine. Serait-ce pour vous, Sabine Audrerie, le signe que chez nos auteurs, on a droit à une imagination tournée vers le passé, comme le soutient votre confrère Jérôme Garcin dans le Nouvel Obs?
J'ai pas lu l'article de Jérôme Garcin, mais peut-être que c'était un petit peu plus nuancé que cette phrase-là, parce que j'ai envie de répondre non, oui et non. J'ai pas l'impression que ce soit un manque d'imagination, ni une imagination à rebours, ou simplement, il me semble constater que pour la plupart de ces écrivains et dans leur démarche littéraire avec ces livres-là, il s'agit souvent d'un prétexte. J'évoquais Chant furieux, effectivement, de Philippe Bordas tout à l'heure, qui prend la figure de Zidane comme une figure centrale, mais c'est une figure en creux qui lui permet de parler de l'enfance, de la possibilité d'un récit d'un temps passé, de la possibilité d'un récit de l'exploit. Du coup, je les ai oubliés, il y en a tellement. La figure de Saint-Luc,
elle cite Bernanos, mais ouais. C'est un point d'appui, c'est pas du tout un livre sur Bernanos, ni même un biopic. En fait, elle parle plutôt de sa mère, non?
Absolument.
Voilà. Sinon, il ferait des biographies, donc finalement. Oui.
Il parle si bien avec l'accent espagnol. Voilà.
Normal.
Cesse de me mirer. Mirar. Enfin, sur cette tendance, c'est vrai qu'on semble découvrir aujourd'hui que les écrivains s'inspirent de personnages ayant existé. Enfin, je veux dire, on oublie...
Proust faisait ça.
On oublie Marguerite Yourcenar avec les mémoires d'Adrien, de faire du roman sur une figure connue. Et si je rejoins un peu ce que disait Sabine. Bon, moi, ces tendances en rentrée littéraire, ça m'agace un peu parce que les écrivains ne sont pas des produits de saison. Là, je vois, par exemple, qu'on note aussi une autre tendance. Vous savez, il y a des cahiers de tendance dans la mode, etc., dont doivent s'inspirer les
couleurs,
les créateurs.
Les matières.
Quelle sera la couleur de l'été, etc. Bon, peut-être que ça sert dans la mode, parce qu'il s'agit de marché, dans le textile, de marché, une sorte de globalisation. Je pense qu'on n'est pas, et j'espère qu'on n'est pas, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans la globalisation et dans la marchandisation sur le livre. Donc ces tendances, voilà, les écrivains ne sont pas des produits de saison. Si on avait, par exemple, voilà, autre tendance, l'économie dans le roman. Mais bon, Zola, Balzac, vous parlez
des thèmes sociaux,
je veux dire,
assez présents.
On semble découvrir ça. Peut-être parce qu'il faut trouver des liens entre des écrivains. Là, vous en avez cité peut-être 10. Alors oui, on peut dire que 10, ça fait une tendance. On en citerait 10 autres qui n'ont rien à voir avec ça. Sur les 3 livres que je vais réunir pour le temps des écrivains, Beck BD, donc La fille de Salinger, Deville, Trotsky et Malcolm Lowry, Reinhardt qui parle d'un grand écrivain, je les réunis autour de la figure de l'écrivain. Mais ils ne font pas du tout le même livre. La façon dont Beck BD aborde Salinger n'est pas du tout la même que Deville avec Lowry et Trotsky. C'est-à-dire que vous avez... Qu'est-ce que ça veut dire ces tendances? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est une réponse à ce que le public attend.
Bah oui,
à défaut d'être une concurrence, air du temps.
Mais oui, peut-être qu'il faut présenter ça. On le fait aussi, encore une fois, autour du Festival de Cannes. Les biopics, puisque vous avez utilisé ce terme-là en
retrouve dans la presse. Hein.
C'est venu par le cinéma.
Bien sûr.
C'est venu par les grands films, Malcolm X, etc. Voilà, mais bon. Donc, je suis un peu désolé par ces tendances. Et encore une fois, pour le Carrère, par exemple, c'est pas un portrait ou une histoire de Saint-Luc seulement, c'est surtout une histoire d'Emmanuel Carrère. Et quand on a dit autofiction, la tendance de l'autofiction, c'est un terme encore une fois qui ne veut rien dire. Flaubert vous dit Madame Bovary, c'est moi. Autofiction, c'est pas, j'ai jamais compris le terme. Faudrait qu'un jour on m'explique. Voilà.
C'est-à-dire donc sur ces tendances, ce sont peut-être pas les méthodes des écrivains et des éditeurs qu'il faudrait critiquer, mais celles des journalistes, tout simplement.
Il faudra faire votre autocritique. Comme je disais à la grande époque du Parti communiste vietnamien.
On a des approches différentes.
Claire Poland, de ce point de vue, vous n'avez pas à faire votre autocritique parce que vous, ce que vous aimez, c'est les autobiographies, les littératures autobiographiques.
Précisément parce que je n'aime pas trop les romans et les romans contemporains. Ceci dit, j'aime beaucoup les romans qui partent d'un fait historique et qui mêlent l'intime et la vie personnelle de quelqu'un. Et par exemple, là, il y a un livre qui va sortir de Judith Bruce qui s'appelle Le Cercle des Tempêtes, qui parle de Shelley et de Byron, qui sort chez Gallimard, où elle mêle une partie de sa vie. Alors ça, j'aime beaucoup lire ce genre de livre. Le livre de Lydie Selver, je vais aussi le lire. Le livre de Christophe Donner aussi, qui mélange la vie intime de ces trois pontes du cinéma.
Producteur de cinéma, oui.
Ça doit être aussi assez intéressant. Enfin, il y a dans la rentrée beaucoup de choses qu'il m'intéressera de lire et que je vais peut-être abandonner d'ici la 50e page. Mais c'est vrai que c'est un moment excitant de la vie intellectuelle, mais il ne faut pas la réduire à un titre d'article dans les journaux, parce que en 3500 signes présentés toute la rentrée, forcément, on dit c'est l'année de l'autofiction, c'est l'année des biopics. C'est un peu fatal. Il ne faut pas se réduire à ça, quoi.
Et alors pour découvrir
son propre chemin,
son propre chemin, eh bien on peut lire des articles, parce qu'il y a quand même des journalistes qui font leur travail et qui échappent à cette idée de tendance. Et puis il y a aussi le travail des libraires au quotidien. Et donc, excité par la curiosité, Corinne Amard s'est rendue chez l'un d'eux.
Nous sommes devant la librairie La Boucherie, 76 rue Monge, dans le 5e arrondissement de Paris. Jean-Paul Collet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes libraire depuis 18 ans et l'hôte de ces lieux.
18 ans, oui, le temps passe. Hein. C'est l'âge de raison à 7 ans, et puis à 18 ans, c'est la majorité. Donc voilà, on peut parler des livres au bout de 18 ans. Voilà.
Dites, décrivez-nous votre vitrine.
Ah, écoutez, dans ce mois d'août qui se termine, on a voulu bien sûr penser à la rentrée littéraire avec le cru 2014, la cuvée 2014 avec des grands noms que tout le monde connaît, des gens moins connus. Donc écoutez, on est, comme vous venez de le dire, on s'appelle La Boucherie, c'est l'ancienne boucherie. Et donc sur l'étal de la librairie, sinon de La Boucherie, il y a beaucoup de titres à l'heure actuelle. Cette année, il y a 600 et quelques romans étrangers et français qui paraissent. Et donc, comme à chaque fois, on se pose beaucoup de questions sur cette rentrée. J'ai cru pendant le mois d'août que la rentrée serait faite par Cécile Duflo avec son livre. Eh bien non, il y a quand même encore beaucoup d'écrivains qui arrivent à l'heure actuelle. Et donc voilà, notre vitrine, elle est composée des principaux titres de la rentrée littéraire. Encore une fois, les gens connus et moins connus, je pense. Alors les connus, évidemment, Amélie Nothomb avec Petroni. Et puis mon coup de cœur, c'est James Salter. Bien évidemment, c'est l'outsider. C'est un très grand livre et je pense que, et ce n'est pas au détriment des écrivains français, je pense que c'est le livre de la rentrée, le livre entre tous. Vous voyez, c'est marqué, le titre c'est « Et rien d'autre », j'aurais tendance à vous dire, par pure vocation, rien d'autre. Rien d'autre que James Salter.
James Salter et rien d'autre aux éditions de l'Olivier. Eh bien, on entre. Vous nous guidez à l'intérieur ?
Écoutez, on a une table de présentation de la nouveauté. Par exemple, dans les grosses pointures, si j'ose dire, même si on est dans une librairie, il y a le David Fuenquinos qui change complètement aussi, de style, à travers son personnage de Charlotte. C'est un roman qui m'a assez bouleversé. Bon, on peut dire que le thème a été souvent traité, a été souvent remanié, mais je trouve que c'est le renouveau de Fuenquinos qui, voilà, je trouve que c'est un roman pas forcément agréable, qui change complètement, qui est un peu bouleversant.
Charlotte, aux éditions Gallimard.
Aux éditions Gallimard. Alors, dans ce que j'ai picoré, il y a Philippe Meyer, le fils. Voilà, alors là, c'est grande épopée, grand roman, si j'ose dire, d'aventure. On est sur trois générations de famille au Texas et on suit la progression de cette famille. Ah, j'ai picoré pour le moment parce que la problématique du libraire, c'est que c'est quand même un roman qui fait 600 pages. Il y a d'autre part un livre que j'ai picoré, j'aime beaucoup cet auteur, c'est Franck Pavlov chez Albin Michel, qui est assez surprenant. Celui-ci se passe à Barcelone, c'est sur la guerre d'Espagne. Voilà, c'est un livre aussi à lire avec attention, à retenir. Alors, je vous propose de continuer. Il y a le Patrick Deville qui vient de sortir. Moi, j'avais beaucoup aimé Peste et choléra. C'est quelqu'un d'intéressant au niveau de sa formulation, au niveau des ateliers d'écriture qu'il peut faire. Et je pense que c'est un titre intéressant à suivre pour la rentrée. Pendant très longtemps, on pensait que les petites librairies allaient disparaître. Je pense qu'elles ont du mal. Je ne vais pas faire l'apologie de librairie de proximité, que tout va bien, Madame la Marquise. Au contraire, c'est difficile. Mais choisir, c'est compliqué.
Qui vient acheter des livres? Qui entre dans cette librairie?
Vaste question, vous entendez mon soupir. Je crois que le flâneur, malheureusement, je pense qu'il y a un changement de comportement à l'heure actuelle. Ce n'est pas spécifique à une crise économique il y a un an ou deux ans. Je pense qu'il y a une... une nouvelle variété, de nouvelles personnes qui lisent, avec des modes de raisonnement qui sont complètement différents. Bon, en 18 ans, on a vu passer, beaucoup de gens. Je pense que le flâneur est moins quantitatif, mais plus qualitatif.
Merci beaucoup, Jean-Paul Collet.
Je vous en prie, à bientôt et bonne rentrée littéraire.
Alors c'était à la librairie La Boucherie rue Monge à Paris, au micro donc de Corinne Amard. Les flâneurs vont assez peu souvent, moins souvent peut-être qu'hier dans les librairies. En revanche, ils aiment flâner sur le net et en particulier sur le site qui commercialise des livres Amazon et qui actuellement fait scandale puisqu'il souhaite vendre moins cher ses livres électroniques, 10 dollars au lieu de 15. Boycott pour cette raison Hachette qui lui résiste, qui entend Hachette ne pas tuer les livres papier et peut-être les libraires. Ça provoque de nombreuses réactions. Une pétition de 900 auteurs américains dans le New York Times, près de 1200 en Allemagne. Sabine Audrerie, d'après vous, que préfigure ce bras de fer?
Je ne sais pas ce que ça préfigure, mais ça permet de prendre la mesure, en tout cas, quand on voit la mobilisation des auteurs américains et aussi plus récemment des auteurs allemands.
Et pas français, qui sont tournés vers cette rentrée littéraire.
Ça montre la chance des auteurs et éditeurs français et par conséquent des libraires et des lecteurs, surtout, d'avoir le prix unique du livre qui nous prémunit contre toutes ces choses-là. Mais malgré ce prix unique, ce n'est pas, il faut continuer à être très, très vigilant, à se battre. Les éditeurs se sont fédérés il y a quelques années contre Google, à raison et avec victoire, hein, puisqu'ils ont, réussi à contrecarrer les tentatives de détournement de droits et de récupération gratuite des livres sur Google. De même sur Amazon, je pense qu'ils y seront vigilants. Mais tout ça, c'est grâce à la loi sur le prix unique, prolongée par la loi sur le prix unique du livre numérique. Donc on a une spécificité, c'est aussi ce qui protège la librairie, qui se porte bien malgré tout, mais c'est très difficile pour les petites enseignes. La librairie, elle doit continuer à être soutenue, à être protégée. Le SLF, et le syndicat de la librairie française, et différents groupements de libraires y sont vigilants à travers différentes mesures qui, mises bout à bout, vont arriver permettre aux libraires de sortir la tête de l'eau et d'avoir des professions qui perdurent. Là, il y a aussi un problème avec les libraires français qui est que beaucoup de librairies vont passer demain parce qu'on arrive à la fin de la génération des baby-boomers. Donc, la transmission de ces librairies n'est pas aisée en France et tout ça aussi doit être protégé et encadré législativement en France. C'est le cas, pas aux États-Unis et pas en Allemagne où Amazon se sert royalement.
Christophe Naudibio.
Oui, c'est aussi une problématique française, hein, parce que vous avez parlé des Français, des Allemands. On a eu une ministre de la Culture qui s'est d'ailleurs battue contre ça. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que c'est au fond un combat pour la diversité des livres. On parlait de très très beaux livres, Mescaline 55 de Claire Polan. Amazon propulse, les algorithmes d'Amazon propulsent des livres déjà, je veux dire, en tête d'affiche. Et ce qui est intéressant là, c'est de voir que ce sont des auteurs. Et pas seulement des éditeurs, ce sont des auteurs qui se mobilisent. Et ce qui m'inquiète moi aussi, ce qui m'a un peu, oui, qui m'a choqué, c'est la perversité, l'argument autour de George Orwell. C'est-à-dire que les gens d'Amazon, de Jeff Bezos, ont sorti une phrase de son contexte de George Orwell, pourfendeur du totalitarisme, en disant, vous voyez, George Orwell, quand il disait « si les éditeurs étaient un peu sensés, ils les feraient détruire », il parlait des livres de poche, vous voyez, même les visionnaires se sont aveuglés. Or, la citation était tronquée, et George Orwell faisait l'éloge du livre de poche. Donc le côté, vous éditeurs, vous libraires et vous auteurs, en fait, vous n'avez pas compris qu'il y a une modernité, la modernité c'est nous, et que nous, on va dans le sens du consommateur, et qu'il faut que les livres soient moins chers. Et ça, George Orwell, dans un essai que je vous recommande, qui s'appelle « Books », contre cigarette, enfin livre contre cigarette, rappelait qu'en fait, c'est pas en baissant le prix des livres qu'on va vendre plus de livres ou que les gens vont en acheter plus. Il expliquait très bien que si vous baissiez le prix des livres, moins d'argent arriverait pour les auteurs et les éditeurs, parce qu'au fond, si la lecture est vue uniquement comme un passe-temps, c'est moins excitant, disait George Orwell, que d'aller au pub ou au cinéma. Donc, ce n'est pas un problème de prix du livre. Et moi, je trouve qu'un livre aujourd'hui n'est pas cher par rapport à ce qu'on voit tout autour.
Claire Polan, précisément, vos livres ne sont pas chers et ils tiennent dans la poche. En tout cas, Mescaline 55.
Si, mes livres sont chers, malheureusement. Mais parce qu'il faut rapporter le prix du livre au public potentiel. Et le modèle américain d'Amazon, qui est extrêmement performant d'un point de vue économique et d'un point de vue marchand.
Et qui est un relais pour les éditions Clairpolan ?
Ah, pas du tout, non. Non. Il ne peut pas s'appliquer à la vieille Europe de la même manière, parce qu'on n'a pas le même public. Et que le prix des livres numériques ne peut pas être moins de 10 euros en France, parce que pour l'instant, il sert à compenser un marché qui, certes, n'est pas agonisant. Le livre se porte encore relativement bien dans l'économie européenne, beaucoup moins mal que le disque, par exemple, ou les CD. Mais il faut absolument maintenir une sorte de compensation. Le prix du livre numérique aide à soutenir le prix du livre papier. C'est ça qui est important à dire. Et Amazon, bien sûr, ne veut pas entendre ce genre de raisonnement.
À présent, autour de la grande table d'été, c'est l'heure de retrouver la chronique d'Aude Lavigne, à première vue, qui ne parle pas de livres, mais d'art plastique, avec aujourd'hui l'artiste Jérôme Zander.
Jérôme Zander est un artiste plasticien diplômé en 2001 de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Depuis une dizaine d'années, il développe une œuvre virtuose construite au dessin, principalement à la mine de plomb et au fusain. Alliage des influences des dessins sombres des maîtres allemands et des auteurs de bandes dessinées américains, disons rapidement entre Dürer et Krombe, son dessin est un pont entre deux sensations, entre l'admiration et l'effroi. Jérôme Zander répond à notre question : quelle œuvre est à l'origine de son goût, de sa vocation, de sa sensibilité pour l'art contemporain ? Et à première vue, au téléphone, juste sorti de l'atelier, Jérôme Zander nous répond.
Oui, bonjour. Alors en fait, je me rappelle d'un ensemble d'œuvres. C'est quelque chose que j'avais vu à l'ouverture de la Fondation Guggenheim à Bilbao. Je crois que c'était en 97, je ne suis pas bien sûr. J'étais en échange à Madrid et j'avais fait un saut à Bilbao pour aller voir ça. Et alors déjà, j'ai été très marqué par le caractère organique de la fondation, quoi, qui était assez impressionnant pour moi. Quand je l'ai visité, je me rappelle d'une œuvre de Serra qu'on traversait, etc. Et en fait, je me suis retrouvé dans trois salles qui étaient entièrement dédiées à Jean-Michel Basquiat, que je connaissais par ailleurs, mais que j'avais jamais vu en vrai. Et là, ça m'a fait vraiment un vrai choc. Je sais pas, le fait de je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'était de voir quelqu'un qui faisait rentrer le monde dans son travail, quoi. Avec ses vitesses, ses changements, ses échelles, je sais pas, tout ça, toute l'énergie, quoi, que j'ai ressenti, comme ça, concentré. Et c'est ça qui m'a le plus impressionné et qui m'a, comment dire, précipité encore un peu plus dans l'aventure que je commençais tout juste, en fait.
Le musée comme un organisme vivant qui engloutit le spectateur qui tombe dans une œuvre tout aussi vivante. C'est ça vos sensations, Jérôme Zander ?
C'est un truc qui m'obsède effectivement vachement maintenant. Hein. Le fait que j'étais dans un endroit qui activait le travail. C'est comme si j'étais dans une grotte, quoi. Enfin, il y a un truc un peu... C'était un peu rupestre, Lascaux, etc. Mais il y avait un vrai effet comme ça... Je sais pas, dans ce qui se passait entre le travail de Basquiat, l'endroit où c'était montré, c'était comme ouais, quelque chose qui rendait tout ça très vivant, quoi. Puis du parcours, enfin la déambulation là-dedans, le choc, l'organisation des travaux les uns avec les autres, enfin, y avait tout qui était extrêmement fort, quoi. Enfin, pour moi en tout cas. Là, je suis en train de penser à une autre œuvre, mais qui m'a fait comment il s'appelle, le jardin d'hiver de Dubuffet. Pour moi, c'est l'équivalent, en fait, dans ce rapport-là de à la fois d'espace et puis d'œuvres que l'on regarde et que l'on vit, que l'on pratique dans la déambulation. En fait.
C'était à première vue la chronique d'Aude Lavigne. Mais puisque nous sommes à l'heure de la rentrée littéraire autour de cette grande table d'été aujourd'hui et de son ivresse, je voudrais qu'on ait le temps de dire un mot de Mescaline 55, l'ouvrage stupéfiant que vous avez fait paraître à l'orée de l'été, Claire Polan.
Un ouvrage hallucinant alors, puisqu'il raconte, il donne les récits et les récits d'auto-observation, les poèmes, les lettres, les dessins de trois auteurs, Édith Boissonnas, Henri Michaud et Jean Polan, qui ont fait en janvier 1955 une expérience de Mescaline qui à l'époque se trouvaient sous le manteau. Il y avait des médecins qui supervisaient l'ensemble, mais leur but du jeu, ce n'était pas du tout de faire avancer la connaissance des effets de la mescaline pour la médecine, mais de voir l'impact d'un hallucinogène comme la mescaline sur l'écriture. Et dans ce petit livre, on voit très bien à quel point Henri Michaud ne cesse de tenir le crayon, à la fois pour dessiner ces fameux dessins mescaliniens, et puis pour continuer à écrire et à produire une œuvre littéraire. C'est la première fois qu'il prend de la drogue en janvier 1955. Et ça va durer assez longtemps, cette exploration des abîmes. Oui. En revanche, Jean Paulhan, lui, trouve l'expérience un petit peu décevante. Et quant à Edith Boissonnas, qui est la révélation un petit peu du livre, c'est une poétesse suisse. Elle a tenu son journal dans lequel elle raconte en détail les circonstances de ces trois après-midi de prise de drogue et le comportement de Michaud, très nerveux. Le comportement de Jean Paulhan se mettant à admirer tout le monde, ce qui pour lui était une sorte de comportement totalement halluciné, et pour elle, une sorte de repli sur elle-même et d'expérience vécue de manière très intense de cette mescaline.
Alors on imagine déjà les lecteurs et les lectrices très nerveux à l'idée de se procurer cet ouvrage magnifique, tant par la qualité des textes, des reproductions et puis de sa couverture qu'on voit, qu'on aperçoit facilement chez un libraire sur une table, puisqu'il est aux mêmes couleurs que celle de France Culture, un violet. Alors je ne sais pas quelle est la couleur exacte dans un cahier tendance, un catalogue Pantone. Est-ce qu'on trouvera de la mescaline sur... la table dans le studio du Temps des Écrivains,
ah ben oui,
votre nouvelle
fera,
émission sur France Culture, Christophe Nobibio.
Oui, parce qu'on a gardé le principe d'un thème, et un thème qui est un enjeu littéraire ou une coïncidence, et je voudrais que trois romanciers se rencontrent. Voilà, il s'agit de communier autour d'un thème, autour de livres, et que chacun ait lu évidemment le livre des autres. Et quand on fera, donc j'en ai parlé, hein, on fera ce numéro sur la figure de l'écrivain, cette première édition, ça sera le 6 septembre à 17h, hein, donc chaque semaine, le Temps des Écrivains.
Le samedi à 17h.
Deville, Bec BD et Reinhardt. Mais on fera un spécial drogue, j'espère, et on vous invitera, Claire Paulhan, parce que la drogue et la littérature, dans ses rapports à la littérature, c'est absolument fondamental. Alors, il faudrait que je trouve des gens qui parlent de Burroughs, on parlera de mescaline, on parlera aussi du dawamesque de Baudelaire.
Et alors, vous concernant, ce sera... Il faut consacrer un peu de temps aux éditeurs, Sabine Audrerie.
On a parlé de Claire Paulhan et de Mescaline 55, parce que quand vous parliez des 607 nouveautés de la rentrée, ça me faisait penser à une phrase que Pierre Landry, libraire à Tulle, m'a dit un jour. Une nouveauté, c'est juste un livre que l'on n'a pas encore lu. Et donc, soit sorti un mois avant ou un mois et demi avant, ce n'est pas du tout important. Et oui, je vous parlerai bien rapidement, je vois qu'il faut le faire très rapidement, d'un livre d'une maison un peu cousine de celle de Claire Paulhan, qui est les éditions Antoine Jacotet, qui publie l'intégralité de la correspondance de Nicolas de Staël en cette rentrée. Là, ça sortit il y a quelques jours. 200 lettres inédites. Ça éclaire vraiment de manière merveilleuse la fin de sa vie, toute son histoire d'amour cachée avec Jeanne, son grand amour. Qui raconte aussi beaucoup de choses sur, évidemment, la peinture. Donc, ça fait partie des petites pépites de la rentrée avec bien d'autres. Éric Chauvier chez Alia, Jean-Yves Joanet chez Grasset.
Sur les châteaux de sable.
Des écrivains à suivre, toujours entre la fiction et les sciences humaines.
Merci beaucoup à tous trois pour découvrir quelques-unes de ces pépites. Il faut donc lire les pages livres de La Croix, où vous officiez, Sabine Audrerie. Il faut lire donc également Mescaline 55 aux éditions Claire Paulhan. Et puis, dès la fin septembre, on pourra retrouver L'Esprit de l'île autour de Porquerolles, toujours chez vous, Claire Paulhan. Enfin, il faut écouter Le Temps des Écrivains, le samedi à 17h, la nouvelle émission de Christophe Onodibio. Et puis, Le Temps des Libraires, chaque jour à 10h54 sur l'antenne de France Culture. Et puis à présent, c'est l'heure de la session live de Mathieu Conquet qui vous propose aujourd'hui d'écouter l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp, une formation franco-suisse qui vous propose le morceau Slide.
are growing longer. We try.
C'était l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp, la session live de Mathieu Conquet. Cet orchestre tout-puissant Marcel Duchamp qui sera en concert le 4 septembre au Cabaret Sauvage dans le cadre du festival Jazz à Villette et dont le disque Rotor est disponible sous le label Moi Je Connais Records.
Jusqu'à 14h, la grande table
d'été,
Martin Kénéen.
À présent, la Grande Table d'été vous propose de découvrir deux premiers romans de cette rentrée littéraire, deux romans aussi différents que possible, qui convoquent chez le lecteur les fantômes de Bartleby et de Lucien de Rubempré, qui vous entraînent au fond des Pyrénées, ou simplement, comme si c'était simple, de l'autre côté de la rue, deux romans qui, cependant, ont en commun de n'être pas inoffensifs. Au contraire, leurs auteurs ont le goût du risque, de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace, et les voici à mes côtés. Gauthier Baptiste est là, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'Un jeune homme prometteur, publié chez Grasset. Et face à vous, dans notre studio, Pierre Demarty, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éditeur, traducteur et désormais auteur d'un premier roman, En face, chez Flammarion.
Un jour, mamie, nous écrirons notre roman. Le cœur content, comme un livre d'images. À chaque page, il y aura un serment. À chaque instant, il y aura ton visage. Et si pauvre est la prose, elle aura ton charme. Car j'y mettrai tes larmes sur des pétales de rose.
Adamo, notre roman en l'honneur de votre roman. Pierre Demarty et Gauthier Baptiste, là, vous signez seul hein, sur la couverture de En face chez Flammarion et Un jeune homme prometteur chez Grasset. Votre audace, je le disais, je parlais d'audace à votre égard, c'est peut-être d'abord d'avoir osé vous lancer en littérature. Mais alors, qu'est-ce qui a décidé de cette aventure, de cet exercice d'indocilité, Gauthier Battistella? Serait-ce votre expérience au sein de l'agence officielle d'information du Parti communiste chinois, l'agence Chine Nouvelle?
Écoutez, c'est un petit peu ça, dans le sens où en revenant en France après avoir passé 2 ans en Chine, je me suis retrouvé au chômage, c'est-à-dire que je ne faisais rien. Donc j'avais tout loisir de penser et d'écrire. Et ce qui a véritablement lancé mon roman, c'est l'enterrement en fait de ma grand-mère paternelle. Donc c'était au lendemain de l'enterrement, je suis allé me promener avec mon père. On était aux champignons, c'était l'automne. Et puis vous savez, c'était un moment très privilégié puisqu'on n'a jamais l'occasion véritablement de parler à son père. Donc nous marchions en silence et il y avait des limaces dans les sous-bois. Et il y a un titre qui m'est venu, La saison des limaces, qui est devenu le titre de la première partie. Et en revenant, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire la première phrase du roman.
Vous êtes allé acheter une Remington 12, une machine à écrire chez un quincaillier du village ?
Non, mais j'ai appuyé très fort sur les touches de mon ordinateur pour me faire croire que c'était une Remington 12.
Et vous, Pierre Demarty, cet instant déclencheur, ça a été votre séjour, une illumination, peut-être Claudel derrière un pilier de Notre-Dame. Vous, c'était dans un bunker à traduire J.K. Rowling, l'auteur des Harry Potter ?
Oui, je ne sais pas. C'est possible que ce soit elle la fautive. Elle est fautive de beaucoup de choses, cette dame. Mais parmi bien d'autres, parce que dans ce bunker, comme vous disiez, il y avait beaucoup, beaucoup de livres depuis très, très longtemps. Et puis ces livres-là, à force de les côtoyer, de les lire, de les traduire, de les éditer même parfois, ils finissent par vous appeler à franchir le miroir et à passer de l'autre côté. Alors vous parliez d'audace. Peut-être qu'il s'agissait plus d'imprudence, j'en sais rien. Mais voilà, on est attiré par ça, par cette force obscure de la lumière à l'extérieur et d'aller voir ce qui se passe derrière le miroir. Donc,
et vous vous souvenez d'un moment clé ?
Non, il n'y a pas de moment clé, ou alors il y en a des centaines, qui sont les centaines d'ébauches du roman que j'ai toujours rêvé d'écrire, comme j'imagine, mince jeune homme sortant de ses études de lettres et qui se dit moi aussi, voilà. Et puis ça a mis longtemps, donc c'est une clé qui a mis longtemps à tourner dans la serrure, et puis un jour la porte s'est ouverte, voilà.
Alors quand la porte s'ouvre pour le lecteur, qu'on ouvre la couverture, eh bien, au commencement de tout roman, et plus encore du premier, on trouve la première phrase, l'incipit. Est-ce que vous pourriez, Gauthier Battistella, nous lire l'incipit d'un jeune homme prometteur et peut-être nous dire ce qu'elle promet ?
Écoutez, je peux même vous la réciter. J'ai découvert l'existence du mal un samedi matin, je m'en souviens, il n'y avait pas école. Voilà. Alors, elle promet beaucoup de choses. Il est évident qu'il y a d'un côté l'existence du mal et il y a de l'autre côté l'école. Et je crois que ces deux visages se retrouvent dans mon héros, qui se situe entre le petit Nicolas, que je cite en exergue, et American Psycho de Bret Easton Ellis. Voilà. Je pense que mon personnage principal navigue entre ces deux, comment dirais-je, façon de penser la vie et d'agir sur la vie.
Et alors vous avez échappé à l'école, à l'enseignement, à l'université, Pierre Demarty, et donc vous êtes plongé avec délice dans le mal en devenant
dans
traducteur et écrivain.
Ah, c'est le mal, oui, je me disais bien aussi que je frayais avec ce côté-là. Oui, je suis passé de ce côté-là du miroir des livres, et puis...
Et vous aviez l'idée d'une transgression en renonçant à une carrière universitaire en allant du côté des livres, justement ?
Non, c'était plutôt, je ne vais évidemment pas utiliser le mot terriblement empoulé de vocation, mais j'ai plutôt eu l'impression, au contraire, de revenir, d'atterrir là où je devais atterrir de toute éternité, quoi. Que j'étais beaucoup plus à ma place ici que là-bas. Voilà.
Et alors pour les lecteurs qui atterrissent à la rencontre de En face, votre premier roman publié chez Flammarion, faites-nous découvrir cette incipit.
Alors je m'excuse par avance, car il est un petit peu long la première phrase, c'est le premier chapitre en fait dans son intégralité. Le 3 octobre à 5h, un homme, dont le nom ne vous dira rien, lui-même ne vous en dirait guère plus, sort de son appartement, referme doucement la porte derrière lui, descend les escaliers, sort de l'immeuble, marque un temps d'arrêt, un dernier temps d'arrêt, à moins que ce ne soit le premier, traverse la rue et voilà, c'est la dernière fois que Jean Nocher, appelons-le Jean Nocher, franchit le seuil de chez lui, ça y est, c'est décidé, ça a mûri et maintenant c'est décidé, encore que décidé. Le mot est fort, il sort, pour la dernière fois du moins avant longtemps, il ne sait pas encore combien de temps exactement, moi non plus, ni vous. On va bien voir.
Gauthier Baptiste est là. Un premier roman, c'est donc une première phrase, aussi courte, aussi longue soit-elle. C'est aussi d'abord un manuscrit que l'on adresse au petit bonheur, à un ou à plusieurs éditeurs, avant d'être élu. Est-ce que vous avez reçu l'une de ces fameuses lettres d'éditeurs, ces lettres de refus qui en désarment plus d'un ?
Eh bien non. C'est curieux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit mon roman il y a 3-4 ans. J'ai mis à peu près 2 ans pour l'écrire. Et une fois que je l'ai écrit, je pense que c'était un roman où... j'avais besoin de faire sortir quelque chose de l'intérieur de moi, qui était peut-être une forme de colère. Les lecteurs pourront juger. Et une fois que cette colère était sortie, je me suis senti bien. Et étonnamment, je n'ai pas envoyé mon manuscrit. Et j'ai déménagé très récemment et je suis retombé sur des pages de mon manuscrit. Je me suis dit, c'est dommage, c'est pas mal. En fait, parce que j'ai réussi, je crois, à me lire pour la première fois comme un auteur extérieur à ce que j'étais. Et donc, j'ai envoyé le manuscrit à une très grande maison d'édition qui n'est pas Grasset, mais voilà, une maison blanche. Le manuscrit a reçu un très bel. A été très bien reçu. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Je l'ai envoyé à Grasset et ça s'est fait avec une aisance extraordinaire. Donc, je ne suis pas trop. Enfin, je ne peux pas trop juger puisqu'on m'a appelé par téléphone en plus. Je n'ai reçu aucune lettre.
Et quand vous avez signé ensuite votre contrat, est-ce que comme votre héros, vous étiez heureux tellement que vous en aviez mal au cœur ?
Oui, j'étais très très heureux et je dois dire que je n'y croyais pas. Voilà, quand mon éditeur m'a appelé pour me dire c'est bon, vous savez, il y a un moment d'explosion intérieure, c'est-à-dire que je suis parti, j'ai quitté le boulot, ce que je faisais, et puis je suis sorti dans la rue pour profiter de ce moment-là. Voilà.
Comment as-tu pu passer les Pyrénées sans m'en parler? J'ai toujours aimé les grandes pentes vertes par là, lourdes, lentes, avalons celles-là. Avalons, avalons, dis quand tu fais ce chemin, dis quand tu fais ce chemin. Quand tu refais ce chemin, préviens.
Pyrénées de Bertrand Belin autour de la grande table d'été sur France Culture. Un clin d'œil au jeune homme prometteur de Gauthier Battistella du village de Là-Bas. Tous les deux, Pierre de Marty, Gauthier Battistella, vous faites votre chemin, mais avec une différence notable, votre rapport à la langue. Jean Paulhan, dont on parlait tout à l'heure dans la première partie de cette émission, opposait les écrivains en les cataloguant comme rhétoriqueurs ou terroristes, selon qu'ils les jugeaient confiants ou méfiants quant à la capacité du langage à dire et à traduire la réalité. Alors, Pierre de Marty, vous, dont le narrateur joue de l'indécision, on l'entendait dans votre lecture de la première phrase de votre roman En face, est-ce que vous vous sentez dans le camp des terroristes dans cette rentrée littéraire ?
Décidément, après avoir rejoint les forces du mal, me voilà terroriste. Ça commence drôlement bien, cette rentrée pour moi. Je veux bien, pourquoi pas terroriste, tant qu'on parle de livres et pas d'autre chose. Mais alors terroriste de la famille des kamikazes, parce que la terreur qu'on sème, je pense qu'on en est aussi la première victime, parce que les armes dont on fait bois en écrivant, elles présentent toujours le risque de se retourner contre vous. On ne sait pas trop où on va, surtout dans le cas d'un premier roman. Et voilà, on disperse ces mines comme ça, mais elles sont plus anti-soi-même qu'anti-personnel, et certainement pas anti-lecteur, en tout cas j'espère.
Gauthier Battistella, en ce qui vous concerne, est-ce que vous partagez avec votre héros cette croyance dans la capacité des mots à dire et peut-être même à changer le monde ?
Je partage entièrement cette croyance avec mon héros, et d'ailleurs je pense que les mots m'ont changé et me changent, c'est-à-dire que il y a bien des désespoirs que j'ai su surmonter grâce à l'écriture. C'est-à-dire que je me réfugiais dans les mots et ils créaient autour de moi une cellule protectrice, vous savez. Et le rapport à la langue, enfin, on pourra en parler beaucoup plus longuement, mais il y a un rapport qui dépasse l'écriture elle-même. C'est-à-dire qu'il faudrait parler de musique aussi, de musicalité. C'est-à-dire que enfin, je parle pour moi et j'ai retrouvé ça aussi dans l'ouvrage de Pierre de Marty. Et je pense qu'il est très attaché à cela aussi. Par exemple, il y a une phrase qui vous vient, ou la musique vient, le rythme de la phrase vient, avant même le sens. Et c'est la musique qui va donner le sens. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc voilà, oui, je vis avec les mots, j'écoute les mots et je les cultive en secret.
Alors moi, je sens peut-être les vibrations obscures qu'il y a dans chacun de vos romans, même s'il y a quelque chose du jazz, de la pulsation syncopée dans votre écriture et sa musicalité, Pierre de Marty, on l'entendait d'ailleurs. Il y a des pulsions assassines chez votre héros dès le début de ce roman, de ce jeune homme prometteur, Gauthier Battistella. Est-ce que vous partagez aussi avec lui l'idée qu'être écrivain, c'est un travail d'assassin ?
Moi, j'en suis encore une fois de plus persuadé. Enfin, je partage cela avec mon héros, mais bien sûr, je ne suis pas moi-même, ce n'est pas moi qui tient le fusil, je tiens le stylo. Bon, stylo et fusil, c'est parfois un petit peu la même chose. Mais je tiens à dire que tout de même, je n'ai jamais tué de limace de ma vie. C'est important.
C'est très documenté.
Ouais, c'est très documenté. Oui, je me suis documenté dessus. Oui, je pense que
aucune limace n'a été blessée. Écoutez, pendant l'écriture.
Vous savez, quand j'ai écrit ce livre, c'était pour moi, ça m'a fait un bien fou. C'est comme courir dans un magasin de porcelaine. Vous savez, vous levez, vous êtes dans un amphi, vous êtes dans un partiel de 7 heures et vous levez et vous hurlez. Et bien pour moi, ce livre, ça a été ça. C'est un cri et je remercie Grasset de l'avoir entendu. Voilà.
Alors, il y a la dimension assassine de l'écriture, mais il y a aussi la dimension démiurgique, Pierre de Marty. Je pense à Arabal, de mémoire, qui disait que quand il écrit, il joue à être Dieu, mais que ça marche parfois. Est-ce que vous avez ressenti cela en écrivant en face ?
De délire comme ça, divin, de se prendre pour Dieu, je ne suis pas certain. J'ai pas encore cette présomption. Peut-être que je l'aurai au bout du troisième ou quatrième roman. Mais c'est certain qu'il y a la dimension démiurgique dans, on va dire, l'acte créateur que c'est d'écrire. Oui, il est indéniablement là. C'est-à-dire tout d'un coup, à partir de rien, à partir d'une idée qui vous traverse la tête.
Précisément, à partir de ce rien, parce que vous avez mis en scène dans En face, rien moins qu'un homme seul et debout dans un appartement vide. Autrement dit, une chose considérable.
Oui, absolument. Moi, ce qui m'amusait, c'était avant tout ça. C'était de faire quelque chose à partir du rien. Et la situation de départ, à partir de laquelle je n'avais pas du tout prévu ce qui allait arriver ou ne pas arriver, elle est justement absolument minimale. C'est-à-dire que c'est une situation d'un homme effectivement complètement seul, un homme qui n'a... un homme sans qualité, on pourrait dire, hein, qui ne se distingue absolument en rien. Et puis, comme ce type-là se retrouve par ma faute dans un roman, eh ben, il faut qu'il lui arrive quelque chose.
Et
toute la gageure et tout le drôle de l'affaire était de lui faire arriver quelque chose sur du rien.
Merci beaucoup à tous deux. Gauthier Battistella, vous signez donc Un jeune homme prometteur chez Grasset. Et vous, Pierre de Marty, c'est En face chez Flammarion.
La grande table, c'est aussi l'été avec Martin Kénéen.
Et à présent, autour de la grande table, eh bien, c'est la chronique de Marine Loyen qui nous entraîne. On était à l'instant avec des géants de la littérature. Vous êtes avec les géants du Nord.
Oui, je vous emmène danser avec ces géants du Nord, ces géants d'osier, de papier mâché, qui réapparaissent au gré des kermesses et des festivités dans les villes et villages du Nord de la France. Ce sont des figures locales profondément ancrées dans la culture populaire, des personnages intimement liés à l'identité de leur commune. Parfois, on les associe à des légendes. Ils représentent les fondateurs de la ville ou un bienfaiteur local. Les plus anciens ont des siècles, mais ils continuent de vivre et de prospérer. Ils naissent, sont baptisés, se marient, ont des enfants à leur tour. Depuis le 2005, ils sont d'ailleurs inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et pour nous en parler aujourd'hui, Jérôme Finet, il préside l'association de Gaillantin à Gaillantine, à Quentin, près de Douai. Et il a pour projet de fonder un musée dédié à ces géants du Nord.
Donc la tradition des géants dans le nord de la France remonte au Moyen-Âge, avec pour la région Nord-Pas-de-Calais la première apparition de géants dans la ville de Douai, en 1530. Donc les géants nous sont arrivés de la conquête des Espagnols sur ce qu'on appelait à l'époque les Pays-Bas. Cette tradition est très populaire dans le nord de la France.
Et à l'origine, en quoi consistaient ces défilés de géants ?
Alors la tradition est venue surtout de la religion catholique. les géants étaient intégrés à des tableaux, ce qu'on appelait des tableaux, c'est-à-dire qu'il y avait des processions où on leur représentait des passages de la Bible, et donc on apercevait que ce soit des Goliaths, des Samson, qui étaient vraiment liés à la Bible, à la religion catholique. Si vous allez à Hatt, en Belgique, vous pouvez voir le combat de David contre Goliath. Par contre, en ce qui concerne le nord de la France, ces traditions se sont perdues et c'est devenu des rassemblements laïcs où l'on voit des géants qui représentent tous les corps sociaux de la société. Donc on a vraiment perdu ce côté de cette tradition catholique.
Et aujourd'hui, alors, ils ressemblent à quoi? Ils font quelle taille? Ils sont fabriqués comment?
Alors, il faut savoir que le plus grand géant d'Europe, donc, c'est un Belge. Il nous vient de la ville de Newport. Donc, il mesure 12 mètres de haut. Il est porté par 26 personnes. Et en ce qui concerne le nord de la France, donc, c'est M. Gaillan qui est le plus grand et le plus ancien. Donc, il y a toute sa famille. Hein. Vous avez M. et Mme Gaillan, vous avez tous ses enfants. C'est des personnages qui mesurent entre, on va dire, le plus petit, c'est le nain Gaillou de Guénin, qui mesure 1m20, et le plus grand, donc, en M. Gaillan. Mais vous avez vraiment toutes les tailles de géants, et ça va de 1 porteur à 26 porteurs pour Jean Turpin de Newport. Mais le problème que l'on rencontre actuellement, c'est que l'on a de moins en moins de porteurs, et on retrouve de plus en plus de géants montés sur roulettes. Et c'est là le souci, c'est-à-dire que pour nous, toujours qu'un géant qui ne danse pas est un géant qui ne vit pas. Et c'est vrai qu'on essaye de promouvoir les géants portés plutôt que les géants montés sur roulettes.
Vous parliez tout à l'heure de M. Gaillan, de la famille Gaillan. Ça correspond à qui? Qui étaient les Gaillans?
Alors, en ce qui concerne M. Gaillan, il n'a pas de nom défini. C'est-à-dire que le mot Gaillan en picard signifie géant. Il faut savoir que M. Gaillan a 8 légendes rattachées à son histoire. Alors, il y en a deux qui sont retenus plus par les historiens, c'est-à-dire que M. Gaillan représenterait un seigneur, donc en la personne du seigneur de Quentin, qui aurait délivré la ville au IXe siècle d'une invasion barbare. Et il y a une autre légende qui est retenue plus officiellement, c'est-à-dire qu'il serait la représentation du Saint Mauran, donc qui est le saint patron de la ville de Douai, qui aurait donné l'alerte lors d'une invasion. Donc on reste toujours dans le Moyen-Âge, et vous avez d'autres légendes rattachées à M. Gaillan. Il aurait été élevé soit par une ours sauvage, mais il faut savoir que les légendes de M. Gaillan prennent toujours naissance dans le village de Quentin. Et on a par contre un personnage historique qui s'appelle Adèle Brisset, qui elle était une bienfaitrice qui a légué un hospice pour les malheureux de la commune.
C'est une manière de rendre hommage
Tout à fait. Lorsque l'on représente un personnage historique qui a rendu service à la population, c'est toujours par reconnaissance. Et d'ailleurs, c'est un honneur d'être représenté en géant. On a souvent des personnes qui sont décédées, mais maintenant, on trouve des gens qui ont leur géant de leur vivant. On a, malheureusement, il est disparu il n'y a pas longtemps, on avait M. Pierre Morois, l'ancien maire de Lille, qui a eu son géant de son vivant. On a des tas de personnes comme ça qui ont leur géant de leur vivant pour leur rendre un peu hommage.
Et pour découvrir les géants Jean et Jacobus, rendez-vous à la fête de la rhubarbe ce week-end à Quentin.
Merci Marine. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique, signée cette fois avec la complicité de Lola Kahn. Et rendez-vous demain également pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui était écrite en lettres de son par Corinne Amar, Lola Kahn, Marine Loyen, Brigitte Masson, Claudia Prolongeau et Martin Kénéen. À la réalisation, Michel-Ange Vinti. À la prise de son aujourd'hui, Jean-Guilain Meige.